السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Généralement, nos organisations auxiliaires organisent leur rencontre annuelle au cours du mois de septembre et d'octobre dans la plupart des pays. Inch'Allah, aujourd'hui, l'Ijtema ou la réunion annuelle de la Khuddam ou l'Ahmadiyya va débuter. Et la semaine prochaine, il y aura celle de l'Ansarullah et de la Lajna Imaïla. Au cours des 27 ou 28 dernières années, le calife participe dans les ijtimas de la Jamaat du Royaume Budi. Et avant l'émigration du calife du Pakistan, il participait dans toutes les ijtimas de ces organisations auxiliaires. Et les représentants des différentes organisations participaient dans ces ijtimas. Et cela rendait Rabwa tout joyeux. Les Khuddam et les Atfal attendaient avec beaucoup d'ardeur les ijtimas. Ils habitaient dans des tentes et chaque majlis apportait des draps avec lesquels il faisait des tentes. Il n'y avait pas de tentes comme on en a ici. Ils utilisaient des draps de lit pour en faire des tentes. Et ils logeaient dans ces tentes de fortune. Chaque groupe apportait ses draps et ainsi on voyait toute une scène bariolée, colorée et fleurie. Généralement, au Pakistan, en octobre, il ne pleut pas. Ainsi, on arrivait à vivre ainsi, mais cela n'aurait pas pu se faire ici en raison du climat. En tout cas, les ijtimas de la Jamaat du Royaume-Uni, l'ijtima du Khuddam ou l'Ahmadiyya, me rappelle mes souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et l'on se souvient aussi de ces opprimés qui sont victimes d'une loi infâme qui a été instituée par des tyrans et qui ont été ainsi privés de ce droit de se réformer. Ils ne peuvent pas se réunir pour se réformer, pour leur tarbiya et pour se souvenir de Dieu et de son prophète. Et ils ne peuvent pas ainsi organiser ces réunions. En tout cas, vous et moi, nous avons la certitude que cette situation ne va pas perdurer pour toujours, Inch'Allah. Un jour, cette oppression et ces oppresseurs vont disparaître de la surface de la terre. Qu'Allah nous donne la possibilité de faire preuve de patience, de persévérance et de continuer à prier. Ces paroles, j'aurais dû les mentionner au cours de l'Ijtima. Et chaque année, je m'adresse à ces organisations auxiliaires pour leur parler à ces sujets. Mais j'ai décidé d'en faire mention aujourd'hui pour le sermon du vendredi, car au Pakistan, le calife faisait les discours d'ouverture et de clôture au cours de ces ijtimas. Ensuite, le discours de clôture que je prononce à la fin de l'ijtima ici n'est pas transmis en direct à la MTA. On transmet ce discours quelques jours après. Et il se peut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui n'arrivent pas à suivre ce discours. Ensuite, là où les ijtimas seront organisés, les gens vont se sentir concernés par ce message et vont essayer de suivre ces conseils. Et on va se souvenir aussi des opprimés du Pakistan. Ensuite, là où il y a de nouvelles jamaat, là où on est en train d'établir de nouvelles majalis, les gens vont comprendre leurs responsabilités et vont profiter de ces paroles directement. En tout cas, je m'adressais aux Khoudam en particulier et aux membres de la communauté en général. Dans la sourate Al-Kahf du Saint-Coran, dans deux endroits, Dieu fait mention de jeunes qui ont servi la foi, qui se sont réformés et qui ont fait des efforts pour établir l'unicité de Dieu. Ces jeunes avaient accepté le Messie du prophète Moïse et ils ont été persécutés pendant 300 ans. Ils ont été persécutés pour une très longue période et c'est pour cette raison qu'ils ont dû se cacher dans des grottes et ils ont été poursuivis par leurs tortionnaires même dans ces grottes pour être tués. Mais pour la cause de Dieu, pour la cause de la foi et pour l'unicité de Dieu, ils ont supporté tout cela. Lorsque la situation s'est améliorée, ils sortaient de la grotte, mais de temps en temps, ils faisaient face à cette persécution. Dieu a évoqué cela dans le Saint-Coran en raison de leurs efforts qu'ils ont faits pour la foi et pour l'unicité de Dieu. Je vais citer deux versets à ce sujet. Dans le Saint-Coran, Allah déclare:
«
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Lorsque les jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent Notre Seigneur, accorde-nous de ta part de la miséricorde et guide-nous dans notre affaire. Et après deux versets, il est dit نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nous allons te raconter leur véritable histoire. C'était des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons fait progresser sur la bonne voie. Ensuite, il est dit « وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَا. Et nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils se mirent debout pour dire « Notre Seigneur » Et le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons quelque autre Dieu en dehors de lui, car si nous le faisons, nous prononcerions ainsi une énormité. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour rétablir l'unicité de Dieu. Ils ont supporté toute cette oppression et ils n'ont cessé d'implorer Dieu. Ils n'ont cessé d'implorer Dieu en lui demandant de les préserver sur la voie de l'unicité et de les faire marcher sur la bonne voie. Dans le verset précédent, on trouve mention du christianisme d'aujourd'hui qui s'est écarté de l'unicité de Dieu. Et du fait que les chrétiens d'aujourd'hui ont fait d'un homme le Fils de Dieu, un point de vue qui est complètement erroné et faux, un enseignement qui n'a aucune relation avec les enseignements originels du christianisme. Ce sont des paroles dangereuses qui vont les faire mériter le châtiment de Dieu. L'enseignement véritable pour lequel les véritables chrétiens ont fait des sacrifices n'est pas la Trinité. En fait, ils ont défendu l'unicité de Dieu et dans le Saint-Coran, après avoir mentionné leur état et leur situation, ils déclarent qu'en raison de leur foi, en raison de leur sacrifice, nous les avons maintenus sur la voie de la direction et nous avons aussi renforcé leur cœur. Ils adoraient un seul Dieu et ils ont rejeté nettement l'existence de tout autre Dieu. Mais après le passage du temps et suite à l'influence d'autres puissances, le christianisme s'est détourné de son enseignement véritable et a présenté l'enseignement de la Trinité. Le christianisme est tombé entre les mains de personnes malveillantes. Et le matérialisme a régné sur leur cœur. Dieu a averti qu'il va placer au feu ceux qui commettent ces actes polythéistes. En tout cas, ces versets nous font comprendre que tant que le christianisme était dans son état originel, ce sont des jeunes qui l'ont protégé. Puisqu'ils ont protégé leur foi face aux tyrans, puisqu'ils ont protégé leur religion, puisqu'ils ont accepté Allah comme unique Seigneur, Dieu les a maintenus dans la bonne direction. Ils ne se sont pas souciés des faveurs matérielles, ils ont tout le temps accordé prééminence au plaisir de Dieu. Dieu évoque son traitement en faveur de ces quelques jeunes. Il déclare, nous les avons fait progresser dans la direction et nous avons renforcé leur cœur. Et c'est à raison de cette force qu'ils ont pu annoncer à tous les tyrans de leur époque qu'ils n'ont pas d'autre Dieu à part Allah l'unique. Ils ont déclaré, nous n'allons pas implorer d'autre Dieu à part Allah l'unique. Nous pouvons donner notre vie, nous pouvons sacrifier nos droits, nous pouvons aussi sacrifier nos bien-aimés, mais nous n'allons pas nous écarter de l'unicité. Voilà l'exemple de ces personnes qui n'avaient pas pour modèle ce grand prophète qu'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, un modèle qu'il nous a donné à nous de par sa grâce, lui qui nous a aussi présenté l'exemple de ses compagnons. En raison de ce grand exemple qu'il nous a donné, il nous incombe à nous de respecter l'engagement que nous avons pris, que nous allons sacrifier notre vie, notre temps et nos biens afin de maintenir l'unicité de Dieu. Aucune épreuve, aucune convoitise ne doit nous empêcher de respecter cet engagement. Lorsque nous mentionnons des épreuves par lesquelles sont passées les communautés de Dieu, l'on pense immédiatement aux Ahmadis du Pakistan. On pense aussi à ces Ahmadis de ces autres pays où les Ahmadis sont en train de souffrir en raison de leur foi. Les Ahmadis du Pakistan sont persécutés aujourd'hui physiquement et moralement, et ils sont en train aussi de sacrifier leur vie et leurs biens. Il y a aussi les Ahmadis des pays arabes. Et par la grâce d'Allah, leur nombre est en train d'augmenter de jour en jour. Quotidiennement, dans mon courrier, je reçois leur baya ou leur serment d'allégeance. Les Ahmadis sont en train de passer par d'innombrables difficultés, même dans ces pays arabes. Et ils sont en train de vivre comme des Ashab al-Kahf. Au Pakistan, la communauté est très ancienne. Et sans peur, ils affichent leur foi. Ils ne cachent pas le fait qu'ils sont Ahmadis. Et l'on sait qui est un Ahmadi là-bas. Mais il est très difficile pour les nouveaux venus d'afficher leur foi. La majorité de ces nouveaux venus sont emplis de zèle et progressent aussi dans leur foi. Mais il y a aussi certains qui sont faibles. Et pour renforcer les fondations de la Jamaat, dans certains cas, il leur est conseillé de ne pas se réunir en grand nombre ou de se réunir pour les prières en congrégation en grand nombre ou pour venir à la prière du vendredi. Cela doit se faire pour leur propre protection. Et ils en sont tout anxieux lorsqu'ils m'écrivent. Ils me demandent jusqu'à quand vont-ils vivre dans cette situation. Et je leur cite l'exemple des Ashab al-Kahf et je leur encourage à être patients. Ces jours vont changer, Inch'Allah, et l'histoire des prophètes nous le prouve que ces jours changent et vont certainement changer. Les Ahmadis qui doivent se cacher dans ces pays musulmans et qui doivent prier en se cachant et comme je l'ai dit, ils doivent même se cacher pour accomplir la prière du vendredi. Je leur dis qu'ils ne connaissent pas encore le plaisir d'être dans une réunion où se trouve le calife, tel que les Ahmadis l'ont vécu au Pakistan. Mais en dépit de cela, depuis les 28 dernières années, ils sont en train de protéger leur foi et continuent à faire des sacrifices en ce sens. Des restrictions et une persécution si longues ne sont pas des choses ordinaires. Mais ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants, ces vieux qui personnifient la patience et la persévérance sont en train de faire ces sacrifices. Mais sachez que ces sacrifices ne sont pas permanents. Ces sacrifices ne vont pas durer plus de 300 ans. Ces sacrifices vont nous rapprocher par la grâce de Dieu du succès et du triomphe. Les progrès de la communauté Ahmadiyya ne vont pas s'arrêter en raison des persécutions subies dans quelques pays. La Jamaat Ahmadiyya a pour tâche de répandre le message du Saint-Prophète aux quatre coins du monde et d'établir l'unicité de Dieu. Cette opposition, ces restrictions et cette persécution ne vont pas arrêter cette tâche. Quotidiennement, la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser. Quelques jours de cela, j'ai posé la première pierre de la mosquée d'Irlande. Et le christianisme est fermement ancré en Irlande. Et jusqu'à présent, il y a un lien très ferme entre la population irlandaise et l'Église catholique. Ils ont un très grand lien avec l'Église catholique. Alors que la majorité des chrétiens d'Europe n'ont aucune relation avec la religion. En tout cas, j'ai posé la première pierre de cette mosquée dans ce pays qui se trouve dans un coin du monde. Et on y avait aussi organisé une réception. Et il y avait plus d'une centaine d'intellectuels qui étaient présents. Il y avait aussi des députés, des représentants de l'État, des gens appartenant à diverses forces vives de la société. Il y avait aussi le maire de la ville de Galway. Il y avait aussi le prêtre qui était présent. J'ai eu l'occasion de présenter le message sublime de l'islam à toutes ces personnes. Et j'ai pu leur transmettre aussi le message du Messie premier, l'islam. La télé nationale et les journaux ont fait une bonne couverture médiatique. Et ainsi, on a pu présenter le message sublime de l'islam à des centaines de milliers de personnes. Si d'une part on essaie de restreindre les actions de la communauté Ahmadiyya, d'autre part, Dieu ouvre les voies pour l'établir. La Jamaat d'Irlande est très petite et la majorité d'entre eux sont des jeunes et par la grâce d'Allah, ils sont très actifs. Et ils ont de très bonnes relations. Et maintenant, ils ont pu élargir leur cercle de contact grâce à cette réception. Et ils vont pouvoir ouvrir de nouvelles voies, Inch'Allah. S'ils maintiennent la même poussée et s'ils profitent de ces contacts, Inch'Allah, ces quelques serviteurs du Messie premier l'Islam vont présenter Dieu l'unique à ces serviteurs du Messie de Moïse qui se sont écartés de l'unicité de Dieu, Inch'Allah. Dans certains pays, les Ahmadis sont en train de vivre comme des Ashab al-Kahf. Et cela peut nous rendre soucieux, mais d'autre part, la bonne nouvelle, Kataballahu l'Arnibanna wa Ana wa Rasuli, nous console. Dans cette bonne nouvelle, il déclare, certainement, je prévaudrai moi et mes prophètes. Cette bonne nouvelle nous console donc. Après la période des Ashab al-Kahf, du Messie de Moïse, le christianisme s'est répandu dans le monde. Mais cette forme du christianisme a répandu le shirk. Les Ahmadis, quant à eux, auront certainement la victoire avant même cette période de 300 ans. Et cette victoire va se faire en déracinant le polythéisme et en établissant l'unicité de Dieu. En tout cas, nous ne sommes point désespérés. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya a fait beaucoup de progrès. Et si dans quelques pays, on est en train de priver les Ahmadis de leurs droits, on est en train de les priver de leur liberté, eh bien, les Ahmadis de l'Australie, d'Amérique, d'Afrique et des îles sont en train de vivre en toute liberté. Ils peuvent, en toute liberté, suivre les préceptes de l'islam et traduire ces enseignements de l'islam dans la pratique. Les voies pour le tablir leur sont ouvertes. Je m'adresse à ces Ahmadis de ces pays et je leur dis d'utiliser cette liberté, cette aisance, afin d'atteindre l'objectif de leur vie. Ils doivent faire des efforts pour atteindre leur objectif. Dieu n'a pas utilisé les paroles Wazid Nahum Huda uniquement pour les Ashab al-Kahf. Allah a énoncé un principe ici. Il déclare que celui qui protégera sa foi, celui qui s'efforcera de suivre les préceptes de la religion, Dieu le fera progresser davantage dans la foi. Il progressera dans sa foi. Dieu a aussi mentionné cela dans la sourate Al-Anfal en disant « Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun » Seuls sont de vrais croyants, ceux dont le cœur tremble lorsque le nom d'Allah est mentionné. Et lorsque les signes de Dieu leur sont récités, cela augmente leur foi. Et ils se fient totalement à leur Seigneur. Et ensuite il dit, « Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun » Ceux qui observent la prière et dépensent de ces dons et richesses que nous leur avons accordés. Ensuite, il est dit, Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim, wa maghfiratun wa rizqun karim. Cela sont les vrais croyants. Ils ont des catégories par an auprès de leur Seigneur, ainsi que le pardon et une provision honorable. Dieu a évoqué ici les signes du véritable croyant. Le véritable croyant ne se contente pas de faire de simples déclarations. Il possède certaines qualités. Même face aux épreuves, il protège sa foi. Et dans l'aisance aussi, il protège sa foi. Ainsi, il profite des promesses faites par Dieu. Il mérite ces promesses que Dieu a faites en faveur des véritables croyants. Si une personne déclare qu'elle croit en Dieu, chacune de ses actions et de ses paroles doivent être accomplies pour avoir le plaisir de Dieu. Il ne doit pas se contenter de prononcer le nom de Dieu. Il doit avoir en son fort intérieur la crainte de Dieu. Il est dit à propos des signes des croyants que « Iza dhukira Allahu wujilat qulubuhum » dont le cœur tremble lorsque le nom d'Allah est mentionné. Allah est cette personne bien-aimée que le croyant doit tout le temps avoir en tête et il doit tout le temps être en quête de son plaisir. Comment avoir le plaisir de Dieu? C'est en suivant ses commandements. La foi n'est pas uniquement une simple déclaration verbale. C'est une action qui doit être perpétuelle. Ensuite, il est dit que les signes de Dieu le font progresser dans sa foi. Il ne cherche pas des prétextes en disant qu'il est difficile de pratiquer les actions préconisées ou qu'il va choisir quelles sont les actions qu'il veut accomplir. Les croyants doivent tout le temps se tenir prêts à suivre tous les préceptes de Dieu. Voilà les signes du véritable croyant. Allah évoque cela dans un autre verset en disant « وَإِذَا ذُكْرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا » Lorsqu'on leur rappelle les signes de leur Seigneur, ils ne deviennent ni sourds ni aveugles. Voilà comment agissent ceux dont la foi est véritable. On ne progresse pas dans sa foi en faisant de simples déclarations. Pour cela, on va devoir s'efforcer de suivre les commandements de Dieu. L'on aura le plaisir de Dieu lorsque, pour la cause de Dieu, l'on s'efforcera de se sacrifier et lorsqu'on aura une confiance parfaite en Dieu en chaque situation. Ensuite, Allah déclare qu'un des autres signes des véritables croyants est qu'ils établissent la prière au cours de ces ijtimas. Et après cela, chaque khadim, chaque ahmadi va devoir respecter les heures de prière. Il doit accomplir les prières en congrégation et il va devoir être régulier dans ses prières obligatoires et doit accomplir ses prières en congrégation. Et ceux qui sont de service aussi doivent en faire de même. Ils ne doivent pas négliger leurs prières en raison de leur service. Cela ne doit pas se faire uniquement au cours de l'ijtima, durant les jours ordinaires. Nous allons devoir accomplir ces prières, car nos progrès et nos victoires sont liés avec ces prières. Cela a été évoqué à plusieurs reprises par le Messie premier, alayhi salam. C'est pour cette raison qu'on va devoir utiliser le moyen le plus efficace pour la prière. Et le moyen le plus efficace, c'est la salah. Un musulman fait des efforts pour établir l'unicité de Dieu. Voilà son but véritable. Et sans être régulier dans la prière, il ne pourra atteindre ses objectifs, il ne pourra considérer Dieu comme l'être qui lui est le plus aimé. Les cinq prières quotidiennes vont briser ces nombreuses idoles qui sont en son intérieur. Et dans ce monde où règne le matérialisme, ce sont ces cinq prières quotidiennes qui vont l'aider pour établir l'unicité de Dieu. Ces cinq prières vont briser les idoles qui sont en notre fort intérieur et ces prières vont aussi briser ces idoles qui sont les moyens matériels. Cette formule est fondamentale pour établir l'unicité de Dieu. C'est quelque chose que nous devons toujours avoir en tête. Ensuite, il est dit, ils dépensent de ce dont nous leur avons accordé. Ils progressent dans leur foi et ils font des sacrifices pour la cause de Dieu et c'est pour cette raison qu'ils progressent dans leur foi. Ces sacrifices financiers que l'on trouve au sein de la Jamaat font suite à ces commandements de Dieu. Ensuite, suite, Allah déclare que ceux qui vont posséder les qualités mentionnées plus haut seront les véritables croyants. Et ceux qui sont les véritables croyants seront les héritiers des faveurs divines. Et il est dit, Darajatun inda Rabbihim, ils jouiront de grands statuts auprès de leur Seigneur. Marfiratun, leurs péchés seront pardonnés. Warizqun karim, et ils auront une provision honorable. Cette provision, c'est la provision d'ici-bas et les provisions de l'au-delà. Le progrès de la foi, progresser dans la direction, vont nous faire mériter les faveurs de Dieu. Le croyant doit s'évertuer à progresser dans ces domaines et de faire des efforts de progresser dans le domaine de la taqwa. Voilà la véritable taqwa qui mène vers le plaisir de Dieu. Grâce à la taqwa, l'on jouit du plaisir de Dieu et grâce au plaisir de Dieu, l'on progresse aussi dans la taqwa. Allah déclare dans un autre verset وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Et quant à ceux qui suivent la bonne voie, il les fait progresser et leur accorde leur droiture ou leur taqwa. Il est dit Atahum taqwahum. Il leur accorde leur taqwa. C'est-à-dire qu'ils progressent en statut et ils progressent aussi dans la taqwa. Dieu enseigne de nouvelles voies à ceux qui font des efforts pour sa cause et ceux qui veulent chercher son plaisir. Et ainsi, ils rehaussent le niveau de leur taqwa. Et Allah couvre de sa grâce les croyants. Plus qu'auparavant, ils méritent les faveurs divines. Et ils jouissent aussi de la protection de Dieu. Et leurs sacrifices sont agréés par Dieu. Les menaces de l'ennemi ne les effraient pas. Au contraire, grâce à ces menaces, ils se rapprochent davantage de Dieu. Ils ont certitude quant à la promesse « Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhira ». C'est cette certitude en Dieu qui a préparé les premiers chrétiens à faire ces sacrifices. Les promesses que Dieu nous a faites sont encore plus grandes. Et il n'y a aucune raison d'être infidèle envers Dieu. On ne peut même pas imaginer à être négligent envers ces actes d'adoration. On ne doit jamais négliger ces efforts pour rétablir l'unicité de Dieu. Au Pakistan et dans d'autres pays, les suivants du Messie, du Saint-Prophète, sont en train de faire preuve de patience. Ils sont en train de prier et demandent à Dieu de leur accorder patience, persévérance et direction. Et par la grâce de Dieu, ces personnes sont en train de progresser dans leur foi. Allah est en train d'exaucer la prière de ce groupe, la fermeté de leur foi, le fait qu'ils répondent aux attaques de Satan et leur bravoure et leur progrès prouvent que Dieu est en train d'exaucer leur prière et qu'il est en train de renforcer leur cœur.
Les
Il y a parmi eux des adolescents et d'autres qui sont moins jeunes, qui sont en train de présenter leur service pour la cause de la Jamaat, sans crainte aucune. C'est ainsi qu'ils sont en train d'agir au Pakistan. Ils sont en train de s'acquitter de leurs devoirs. Certains aînés m'écrivent en disant que le zèle de ces jeunes les étonne. Les mosquées Ahmadi au Pakistan sont les endroits les plus dangereux selon la police et selon les fonctionnaires de l'État. Mais nos jeunes sont toujours de faction dans ces mosquées. Et on dit aussi que si un khadim n'a pas pu se présenter pour son service, il n'y aura pas manque de personnel. Deux ou trois personnes vont se présenter pour le remplacer. Et ils essayent de prendre sa place. Ils quittent leur maison en disant que si nous retournons vivants, alors alhamdulillah, et si nous ne retournons pas, alors certainement les promesses de Dieu vont s'accomplir en notre faveur. Voilà la foi de leur cœur. Ce sont des sentiments sublimes que nous voyons dans ces serviteurs du Messie, du Saint-Prophète. Qu'Allah maintienne vivants ces sentiments et qu'il leur accorde aussi sa protection. Aujourd'hui, ces jeunes serviteurs du Messie, du Saint-Prophète, sont en train d'écrire l'histoire et ils ne sont pas en reste quant au respect de leur engagement. Voilà ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie, leur bien et leur honneur pour le plaisir de Dieu. Voilà ceux qui auront le plaisir de Dieu. Donc, progressez dans la taqwa et ayez le plaisir de Dieu. Faites des efforts en ce sens. Je m'adresse à vous qui êtes ici devant moi aujourd'hui, ou je m'adresse aussi à ceux qui sont assis dans le chapiteau de l'Ijtema. Je m'adresse à vous directement et je vous dis que Dieu vous a donné la liberté d'organiser ces rencontres. Et vous pouvez organiser votre programme comme bon il vous semble. Et vous avez la liberté de traduire ce programme dans la pratique. Vous avez la liberté d'organiser des programmes pour la tarbiya. Et vous avez aussi la liberté d'organiser des programmes pour l'établir. Comprenez donc vos responsabilités. Ces 3 jours de l'Ijtema ne doivent pas apporter en vous un changement temporaire. Vous devez apporter en vous un changement permanent. Vous devez progresser de la taqwa. Progressez dans vos actes de prière. L'attraction voilée de l'Occident ne doit pas vous détourner et ne doit pas vous attirer. Ayez en tête les sacrifices de vos frères qui sont en train de faire tous les efforts pour maintenir haut le drapeau de l'Ahmadiyya. Pour cela, ils sont en train de faire tout sacrifice et ils sont en train de respecter leur engagement. Afin de prouver votre reconnaissance pour cette liberté qui vous est accordée, d'une part, rehaussez le niveau de vos actes d'adoration et de taqwa et faites votre mieux pour transmettre le message de l'Ahmadiyya. Utilisez tous les moyens qui vous ont été donnés pour l'établir. Les jeunes peuvent utiliser mieux les nouvelles technologies pour l'établir. Et aujourd'hui, les jeunes Ahmadis vont devoir se battre sur 2 fronts. Ce sont des fronts extérieurs. Il y a aussi cette lutte intérieure. À part cette lutte intérieure, il y a 2 fronts sur lesquels ils vont devoir se battre. Ils doivent défendre l'islam face aux attaques. Et ensuite, ils vont devoir aussi défendre l'Ahmadiyya. car l'Ahmadiyya subit des attaques. Il y a différents sites web sur lesquels on présente des objections farfelues à propos de l'Ahmadiyya. Remplissez ces sites avec la vérité. Organisez un programme important sur ce sujet et remplissez ces sites web de vérité. S'il y a manque de connaissances, alors prenez l'aide de vos aînés et de vos missionnaires. Aujourd'hui, tout khadim va devoir participer dans ces programmes. Et c'est là que l'on pourra établir l'unicité de Dieu. Ces jeunes qui étaient les serviteurs du Messie de Moïse étaient en train d'accomplir leur travail dans un endroit restreint. Mais les khudams du Messie, du Saint-Prophète, doivent apporter une révolution dans le monde entier par ces nouvelles technologies. Donc consacrez-y votre attention. Qu'Allah nous en donne à tous la possibilité. À la fin, je vais citer des dires du Messie premier, alayhi salam. Il déclare aux membres de ma jamaat, qu'Allah soit avec vous, que le Très-Haut vous prépare pour l'au-delà, tout comme il l'en a fait pour les compagnons du Saint-Prophète. Sachez que le monde ne vaut rien. Maudite est cette vie vécue pour ce bas monde. Malchanceux est celui dont toute la tristesse est attachée à ce bas monde. Une telle personne n'est pas de ma jamaat. Une telle personne est comme cette branche sèche qui ne va pas porter de fruits. Ô chanceux, pratiquez ces enseignements qui m'ont été donnés pour votre salut. Ne lui associez personne ni sur terre ni au ciel. N'associez personne à Dieu ni sur terre ni au ciel. Dieu ne vous interdit pas d'utiliser les moyens, mais celui qui abandonne Dieu et qui place toute sa confiance en ses moyens est un mouchrik. Depuis les temps immémoriaux, Dieu a déclaré qu'il n'y aura pas de salut sans se purifier le cœur. Soyez purs de cœur et débarrassez-vous de toute animosité, de toute inimitié. La nafsi amara charrie d'innombrables impuretés et la chose la plus impure est l'arrogance. S'il n'y avait pas d'arrogance, il n'y aurait pas eu de mécréance. Soyez humbles de cœur. Ayez de la sympathie pour l'humanité tout entière. Parce que vous allez les conseiller à être les habitants du paradis. Ces conseils n'auront pas d'effet si durant ces quelques jours sur terre, vous leur souhaitez du mal. Pratiquez les préceptes de Dieu avec crainte, car vous serez questionnés à ce sujet. Suppliez Dieu au cours de la salat, afin que vous soyez attirés vers lui. Purifiez vos cœurs, car l'homme est faible. Tout mal qu'il arrive à s'en débarrasser, il le fait par la force de Dieu. Personne ne peut éloigner un mal tant qu'il n'implore pas l'aide de Dieu. L'islam ne signifie pas de réciter la kalima par tradition. L'islam signifie faire prosterner son âme sur le seuil de Dieu et d'accorder prééminence à Dieu et à ses commandements. Qu'Allah nous donne la possibilité de suivre ces conseils du Messie promis, alayhi salam.